Cette découverte s'appelle l'ange turiféraire vêtu d'une tunique jaune, un magnifique retable du XVIe siècle qui a été trouvé lors d'un inventaire en Haute-Garonne. Il sera prochainement mis aux enchères par la maison de vente Arpoget et sa commissaire-priseur Pauline Maringe est notre invitée ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Alors ce n'est pas tous les jours quand même qu'on tombe sur un retable du début de la Renaissance. Comment avez-vous fait cette découverte ?
Alors c'est tout à fait exceptionnel et tout à fait par hasard puisqu'on est allé réaliser un inventaire pour assurance donc chez notre client en juillet dernier et lors de cet inventaire, il me demande de jeter un œil à une succession de tableaux voilà qui provenaient de sa maman. Donc une pile de tableaux et au milieu de cette pile de tableaux, cet ange magnifique, tellement magnifique que la première réaction a été de se dire voilà, nous sommes en présence d'une copie, quelque chose voilà qui imitait un tableau de la Renaissance et en fait en faisant le tour du tableau, en regardant le panneau de bois derrière et le travail incroyable voilà de montage du bois, on s'est dit que vraiment là on avait dans les mains quelque chose d'assez exceptionnel.
Et alors, vous avez pris ce tableau et vous l'avez apporté chez un expert. Comment ça s'est passé ?
Exactement. Donc, on a un peu réfléchi déjà, nous, à le raccrocher à une période. Donc, on l'a assez vite rapproché, effectivement, de l'Allemagne et du début de la Renaissance. Et après, nous l'avons présenté à notre expert, le cabinet Turquin à Paris, qui est un grand spécialiste de la peinture ancienne. Et l'authentification s'est faite assez vite, assez rapidement, voilà, pour plein de raisons, et notamment le fait qu'on connaisse des œuvres similaires voilà, de cet artiste.
Alors avant d'entrer dans le détail de la scène représentée, est-ce que vous pouvez nous décrire grossièrement un petit peu ce retable, peut-être son état, sa taille?
Alors, c'est un panneau de retable qui n'est pas très grand, hein, qui fait à peu près 48 par 60, donc un petit panneau sur bois. C'est du chêne, qui est assez caractéristique de cette zone géographique, donc de la Swabie, à côté de la Bavière. C'est quatre planches de chêne et qui ont été taillées de manière assez précieuse. Donc, la façon dont vous allez travailler votre panneau, en fait, révèle un peu la qualité aussi de votre tableau. Et là, on a vraiment pu, à travers des clichés de radiographie, comprendre comment le montage avait été réalisé. Et donc, on est vraiment en présence de quelque chose de qualitatif, très qualitatif. Donc, on a un panneau de chêne. Et de l'autre côté se situe une grande figure d'ange, un ange qui tient un encensoir, qui occupe toute la place du tableau, voilà, richement vêtu.
Alors, cet ange turiféraire, voilà, vous l'avez dit, il porte un encensoir. Il est dans quelle teinte ?
Alors, il a une grande majorité de rouge et d'or. Voilà, on aperçoit le paysage un peu plus sombre derrière, mais ce qui ressort, c'est vraiment le rouge et l'or, le côté extrêmement raffiné, le contraste des couleurs, qui est quelque chose de très nouveau à cette période. D'opposer voilà, deux couleurs fortes comme le rouge et le jaune, c'est quelque chose qui est venu avec le début de la Renaissance.
D'accord. Est-ce que vous pourriez nous décrire peut-être un petit peu le visage de cet ange, ses mains, son attitude ?
Alors, c'est un ange qui... Ce qui marque vraiment quand on est en présence du tableau et en face de lui, c'est la grande douceur qui émane de cet ange. Il est à genoux, il a un genou plié, l'autre levé, il tient l'encensoir de ses deux mains. Il faut imaginer qu'un encensoir en bronze doré, c'était lourd, c'était très lourd. Donc, il peine sous le poids de son encensoir. Il a un regard vraiment très doux, un petit sourire sur les lèvres. Il est légèrement de profil, ce qui nous permet à la fois, nous, de nous projeter dans le tableau, d'être invités à rentrer dans le tableau. Et d'un autre côté, il faut s'imaginer que c'était un retable et qu'il y avait une scène centrale. Vraisemblablement une déposition du Christ. Et en fait, ses bras et son visage sont tournés vers cette scène centrale. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très novateur parce que les tableaux de cette époque nous invitent, par le biais d'un processus pictural, à nous faire rentrer dans la scène et en même temps à rester dans cette espèce d'intimité voilà, du tableau en lui-même. Donc, les deux anges se faisaient... donc, c'était deux anges de part et d'autre de la scène centrale. Voilà, sont en méditation, on imagine la déposition du Christ, quelque chose d'assez sombre. On est vraiment dans cette période d'attente de la résurrection. Et on a voilà, cette grande douceur, cette grande confiance qui est tout à fait visible en fait, dans ce visage d'ange.
Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être les ailes de cet ange ?
Alors les ailes reprennent un peu le contraste de sa tunique. Hein. On est vraiment dans deux contrastes très forts, de rouge et de blanc. Alors là, on est un peu plus sur le blanc, avec un travail extrêmement fin sur les plumes. Quand on zoome vraiment sur le tableau, quand on s'approche, on voit vraiment tous les détails des plumes. C'est quelque chose de très précieux, c'est un tableau très précieux.
Et un dernier mot peut-être sur le paysage, vous l'avez évoqué rapidement. Est-ce qu'on sait un petit peu, alors vous n'avez pas précisé l'auteur, je vais le dire rapidement, donc il s'agit de Bernard Striegel, on va en parler un petit peu plus loin dans cette interview. Peut-être ce paysage, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, à quoi il fait penser ?
Alors, les paysages, on est vraiment dans les paysages de la Swabie, hein, de la Bavière. Ce sont les arbres de la forêt noire, des choses assez verticales. On a un paysage un peu sombre, un peu rocailleux. On aperçoit d'ailleurs la montagne dans le fond. Le traitement du paysage, c'est quelque chose également d'assez nouveau. On sait que Bernard Striegel s'est beaucoup inspiré d'un de ses maîtres, Altdorfer, qui avait l'habitude de traiter ces paysages de la forêt noire. Voilà, et le paysage est assez important parce que en fait, il permet vraiment de créer une perspective, une profondeur dans le tableau. On n'est plus seulement, on n'a plus seulement une figure plaquée sur un fond un peu neutre. On a vraiment quelque chose qui nous fait rentrer dans une scène beaucoup plus réaliste. On aperçoit d'ailleurs des petites maisons au fond, un petit village avec une église, qui est le seul signe de la présence humaine hein, d'ailleurs dans le tableau. Avec un chemin qui permet de creuser l'espace et de nous faire encore plus rentrer à l'intérieur de cette composition.
Vous m'avez fait part de recherches qui ont été faites sur ce tableau. Qu'elles ont mises à jour ?
Alors, on a fait plusieurs recherches. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. On a fait des radiographies pour bien comprendre le support, comment avait été réalisé donc le panneau de chêne. Ce qui nous a permis de révéler que le tableau avait traversé les siècles sans avoir été modifié, ce qui est assez rare. La seule chose qu'on sait, c'est qu'il a été vraisemblablement coupé de 5 mm tout autour pour réadapter un petit peu au cadre, mais ce qui n'a pas du tout affecté le tableau en lui-même. Et ensuite, on a réalisé des clichés infrarouges qui se sont révélés extrêmement intéressants. Alors, il faut savoir qu'on est quand même à la fin du 15e, début 16e, donc dans une période où on était soit peintre, soit dessinateur. Et il s'avère que Bernard Striegel est les deux à la fois, puisque le dessin infrarouge nous montre à quel point il a travaillé son sujet, c'est-à-dire qu'il avait vraiment tout en tête et il a tout dessiné en amont. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très, très exceptionnel. On retrouve les dessins des plumes, on retrouve les dessins des orteils, on retrouve toutes les pierreries sont dessinées avec beaucoup de minutie, beaucoup de détails. On a des petits détails amusants, notamment on voit l'ange qui tire un petit peu la langue sous le poids de son encensoir, chose qu'on ne voit plus réellement après, quand la couche picturale a été rajoutée. Mais donc, on comprend vraiment qu'il y a eu une vraie recherche de composition, une vraie recherche de dessin, quelque chose de très graphique, sur lequel est venue ensuite s'apposer la couche picturale, la peinture. Donc ça, ce sont vraiment des choses tout à fait nouvelles, tout à fait novatrices, parce que ça ne se faisait pas avant, en fait. On avait vraiment des tableaux qui étaient des tableaux d'orfèvrerie, assez plaqués, avec un manque de volume, hein, clairement. Là, on a une recherche d'architecture, on a une recherche de volume, on a une recherche de minutie, de détails, qui est assez exceptionnel pour un artiste de cette période-là.
Alors, vous parliez de Bernard Striegel, dessinateur et peintre. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur cet homme ? À quelle époque il a vécu ? Comment il s'est fait connaître ?
Alors, c'est un artiste qui est né en 1460 et mort en 1528, qui vient de la ville de Memmingen, une petite ville de la Swabie. Alors, il était assez connu dans sa ville parce qu'en fait, il avait des fonctions politiques, c'était un diplomate. Et c'était une période un peu compliquée, puisque la réforme est arrivée en Allemagne, il y a eu toute une révolte des paysans à ce moment-là dans sa ville d'origine, et on sait qu'il a pris part aux négociations, et il a été envoyé très souvent en mission pour protéger sa ville. Il a été le peintre officiel de Maximilien Ier, donc on connaît de lui des portraits de famille de l'empereur. Ce qu'on sait de lui, on connaît peu d'œuvres finalement, puisque c'est quand même un artiste assez ancien. On sait qu'il a été formé dans l'atelier de son père et avec son frère qui était sculpteur. Voilà, vraisemblablement, notre retable a été fait un petit peu en collaboration avec son frère. Voilà, on a peu de choses, enfin, on connaît peu d'éléments sur sa vie en lui-même. Voilà, on sait qu'il a fait l'essentiel de sa carrière quand même à Memmingen, un petit peu à Vienne. Voilà, mais qu'il est revenu assez vite dans sa ville natale.
Oui, il n'aurait pas voyagé comme d'autres
très peu. Il est resté essentiellement en Allemagne.
D'accord. En faisant vos recherches sur ce retable, vous avez trouvé en fait qu'il faisait partie d'un tout, puisque vous nous avez dit que dans ce retable il y avait un pendant. Alors dévoilez-nous ce mystère du pendant.
Oui, alors c'est ce qui en fait, ce qui rajoute au côté extrêmement exceptionnel de ce tableau, c'est qu'en fait, il y a 14 ans, à Drouot, s'est vendu un autre ange turiféraire qui lui faisait face et qui était en fait son pendant. Donc on a vraiment identifié la même conception, donc avec cet ange tout à fait pyramidal qui occupe tout l'espace du tableau. Le traitement du chêne, les dimensions sont parfaitement identiques. Voilà. Donc on est vraiment en présence, chose exceptionnelle, c'est extrêmement rare de réussir à réunir des panneaux d'un retable démantelé très tôt. Hein. Donc on a quelque chose d'assez incroyable. Donc on a réuni ces deux anges qui étaient pour le retable vraisemblablement de l'église de Memmingen, la Frauenkirche Memmingen, retable qui a été démantelé, donc comme je vous le disais, assez vite, vers 1520, suite à la réforme et voilà, au démantèlement des œuvres catholiques dans les églises de cette région d'Allemagne. Donc oui, tout à fait exceptionnel. Et, pas tout à fait la même position. L'autre ange est vu un peu plus de face, mais on retrouve quand même énormément d'éléments similaires.
Oui. Et ce tableau est visible actuellement ?
Il est au Louvre Abu Dhabi.
Ah, il faut un peu voyager quand même.
Il faut un petit peu voyager. Il a été acheté par le Louvre Abu Dhabi en 2009. Et donc du coup, voilà, il faut aller le voir là-bas. Peut-être un jour une exposition sera organisée qui mettra les deux anges en pendant. Ce serait chouette.
Alors, je disais en introduction de notre entretien que ce retable va être mis aux enchères.
Oui. Néanmoins,
les personnes de notre région pourront quand même aller le voir avant ces enchères, parce que, évidemment, ça n'est pas à la portée de toutes les bourses. Quelques détails peut-être pour aller voir ce tableau ?
Alors, il sera exposé à la chapelle des Carmélites. Donc, on a choisi un lieu vraiment caractéristique du patrimoine toulousain, hein, qui lui servira d'écrin. Le 2 et 3 février, entre 11h et 19h, il y aura une petite conférence qui sera organisée par notre expert, le cabinet turquin, le mercredi 2 février à 18h à la chapelle. Et il sera vendu le 4 février à 16h dans la chapelle.
À votre avis, qui peut acheter un pareil tableau ?
Un tableau comme celui-ci, c'est quelque chose d'assez pointu. C'est un artiste qui est assez méconnu, il faut le dire. On connaît de plus de ses grands contemporains Dürer et Cranach. Donc c'est certainement une institution quelqu'un qui vraiment a une connaissance assez pointue de cette période d'histoire de l'art.
Et ça peut monter à combien des enchères pour un pareil retable ?
Alors, ce que nous savons, c'est que son pendant, donc l'autre ange turiféraire, s'est vendu à peu près 1 million d'euros il y a 14 ans. Donc on espère qu'il fera le même prix, voire plus, parce qu'il le mérite. C'est vraiment un véritable chef-d'œuvre de cette période de la Renaissance allemande.
D'autant plus que vous dites qu'il est presque plus beau que celui qui appartient au Abu Dhabi.
Oui, oui, il a un côté plus fin, plus raffiné. Il est un petit peu plus, de par sa position, un peu plus élégant. Donc on espère effectivement qu'il fera aussi bien, voire mieux, oui.
À voir et à revoir ce magnifique retable, hein, donc l'ange turiféraire à la vêtue d'une tunique jaune. Voilà, qui est son titre de Bernard Striegel. Merci beaucoup pour Lynn Marange.
Je vous en prie, merci à vous.
Venu nous présenter ce chef-d'œuvre de la Renaissance.